Aujourd'hui, place à une émission dédiée entièrement à l'art numérique, hein, qui propose actuellement une explosion, voire une avalanche d'événements, et en fait qui a envahi la scène art visuelle depuis, particulièrement depuis vendredi soir passé, alors qu'il y avait un méga événement de 37 vernissages, je les ai comptés.
Wow.
Et puis, d'œuvres d'art contemporain et numérique à l'Arsenal, qui soulignait en grande ouverture d'une exposition d'un mois fascinante, une biennale internationale d'art numérique résolument tournée cette année vers le futur, plus que jamais. Et titré « Automata, l'art fait par les machines, pour les machines ». Alors, on se retrouve en véritable, dans un film de science-fiction, une mise en situation science-fiction, de quoi faire peur et nous captiver. Donc, j'ai le plaisir de recevoir en studio, réellement, un grand plaisir, Alain Thibault, directeur artistique des événements Electra et Bian, et commissaire de cette grande exposition « Automata à l'Arsenal ». Bienvenue.
Merci.
Réellement, là, je suis partie vendredi soir à 10h, même plus tard. Alors, vraiment, c'est un beau choix d'exposition. Alors, je trouvais ça bien important qu'on en parle, qu'on prenne le temps d'en parler aujourd'hui. Si vous nous présentiez tout d'abord cette thématique, hein, la thématique de cette année.
Oui, c'est ça. Donc, Automata, ouais. l'art fait par les machines pour les machines. Bon, ça se veut... disons que c'est basé sur ces idées qui flottent autour de nous depuis quelques années, sur
oui.
le fait que les machines, puis quand je dis le mot machine, c'est vraiment pris dans son sens très large, ça inclut autant l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., tout le numérique qui nous entoure, c'est basé sur l'idée que les machines seront peut-être la prochaine étape de l'évolution humaine. Donc, à partir de cette prémisse-là, puis à partir de la prémisse aussi, parce qu'il y a tout un mouvement qui a pris naissance aux États-Unis, qui s'appelle la singularité, qui dit que les machines seront aussi intelligentes que l'humain en 2045 à peu près.
Donc, ça nous laisse peu d'années.
Oui, oui, c'est ça. Ils ont repoussé de 2030 à 2045. Donc, on a un peu plus de temps. Mais donc, l'idée, c'était de voir que de présenter des œuvres qui, justement, qui allaient dans ce sens-là, qui questionnaient ce type d'appréhension que l'être humain, c'est normal, puisse avoir.
Même Google, hein, je lisais ça avant hier, était en train de travailler sur un interrupteur.
Un interrupteur.
Au cas où qu'un robot prendrait le contrôle.
Oui, parce que depuis, oui. Disons, c'est une thématique que j'avais développée déjà il y a 2 ans, à la oui. fin de la deuxième biennale. Et puis depuis un an, je veux dire, toutes ces questions-là, notamment d'éthique, elles sont revenues à la surface dans les médias de façon assez importante, parce que là, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que oui, c'est possible, oui, si on prend pas ça au sérieux, il est possible qu'il y ait des soucis importants.
Absolument.
Mais en fait, l'exposition, bon, tout le monde pense que c'est une expo de robots, mais en fait, c'est
ouais.
la thématique, c'est l'éternité, l'immortalité, parce qu'il y a aussi tout ce... les gens impliqués dans ces concepts, mouvements-là aussi, il y a toute cette idée, puis notamment Silicon Valley, où il y a des gens très riches qui se disent, ben la vie est belle quand on est billionnaire, ça serait bien de l'extensionner au maximum. Donc il y a toute cette idée d'immortalité qui a refait surface justement dans la Silicon Valley. Et en plus, il y a des œuvres qui sont aussi, j'imaginais, par exemple, de l'art fait par des machines, mais des machines qui auraient aussi un regard critique vers nous, vers notre façon de vivre, notre façon de concevoir la vie ici, présentement. Donc, c'est un mélange de tout ça. Donc,
écoutez, dès l'entrée, écoutez, on est subjugué parce qu'on peut voir, il y a une salle dès l'entrée où une personne peut s'installer, puis groupe de robots font son portrait. Alors.
C'est ça, donc, tout à fait.
On est captivé. Alors, on imagine, bon, les robots sont vraiment très mécaniques, mais on pourrait les imaginer dans...
C'est juste,
avec une apparence humanoïde.
Oui, oui, c'est juste, c'est uniquement le début. Oui, cette pièce-là de Patrick Tressé, un artiste français qui vit à Londres, Super intéressante parce qu'on a une salle avec 5 pupitres, 5 bras robotiques, et puis il y a une séance de portrait qui se fait. La personne doit arrêter pendant 40 minutes, ce qui est à peu près...
Il faut s'ajuster aux robots, oui. Aux artistes robots.
C'est ça, parce que chaque robot a son style aussi, puis sa vitesse d'exécution et tout ça. Et puis à la fin, au bout de 40 minutes, il y a 5 portraits qui sont faits et qui sont affichés. Donc la personne ne peut pas repartir avec son portrait, mais peut faire des photos.
Mais vraiment, c'est étonnant à quel point c'est précis. Alors,
oui.
Vraiment, alors on imagine le travail que ça a dû demander cette précision dans le portrait. Alors, écoutez, on a un petit bruit, pardon. Alors maintenant, si vous me parliez de l'ampleur de l'événement, écoutez, cette année. Vraiment, il y a des artistes locaux, mais il y a aussi toute une délégation à l'international qui à l'Arsenal, ajoute quelque chose de très particulier, une facture très particulière.
Oui, oui. La première année, en 2012, donc c'est la France qui est invitée. Deuxième année, et notamment, on avait une expo au Musée d'art contemporain dans les salles en haut. C'était la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et cette année, c'est la Suisse qui est le pays invité à l'honneur,
oui.
Si on veut. On a travaillé avec un festival qui s'appelle le Mapping à Genève. Donc, on a quand même conservé, c'est intéressant, cette connexion avec la francophonie. Bon, dans la délégation suisse, il y a quand même des Suisses allemands qui font partie de ça, des Suisses italiens aussi. Mais dans la composition, justement, si on parle de la provenance des artistes, donc délégation suisse, on a aussi une délégation française qui est importante.
Oui.
On a aussi une délégation sud-coréenne aussi qui est importante.
Écoutez, j'ai été épatée là, par l'imaginaire qu'on peut voir sur place.
Oui, notamment, on a le duo coréen qui a fait le pavillon de la Corée du Sud à la dernière Biennale de Venise.
Oui, on a la chance de voir cette œuvre-là.
Ah, oui, c'est absolument magnifique, même qu'on a aussi...
Et quelle bonne idée de la mettre, cette œuvre, dans le plan, parce que c'est quand même 2 grands écrans et plus, là,
oui.
De la mettre en retrait dans un cubicule assez grand, là.
Oui, parce que faut dire que l'Arsenal, c'est un lieu absolument fabuleux, mais qu'il y a quand même... faut jouer avec ses contraintes, avec les puits de lumière et tout ça, donc l'obscurité, quelquefois, peut être un peu difficile, donc il a fallu travailler avec tout ça. Le son aussi, il faut faire attention à parce que quand il y a des œuvres sonores, il faut faire attention à la proximité et tout ça.
Oui.
Donc, mais le lieu est absolument incroyable. Oui.
Écoutez, j'étais ravie de pouvoir aller visiter votre exposition à l'Arsenal. Je trouve que l'opérage est excellent.
Mm-hmm.
Et vous me disiez que c'est pas facile d'avoir accès à ce lieu-là, mais cette année, oui. Les portes se sont ouvertes.
Oui. Ben, je pense que c'est une question de, comme je vous disais, je dirais de crédibilité aussi.
Allons-y, oui.
Parce qu'on a quand même fait Electra existe depuis 1999. On a fait 2 biennales. On a fait notamment une expo au Musée d'art contemporain. Les 2 premières biennales, on les a quand même ouvertes au Musée des beaux-arts en grande pompe. Donc, je pense qu'on a quand même une réputation qui est faite. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, je veux dire, c'est l'art, les artistes, et amener quelque chose de nouveau aussi, un autre point de vue d'un domaine de l'art. Donc, et avec l'Arsenal, ce qui est intéressant, c'est que, l'Arsenal est vraiment identifié à l'art visuel contemporain.
Oui.
Et dans l'expo, j'ai tenu justement
à mixer
des artistes qui évoluent dans 2 mondes différents. C'est-à-dire, il y a des artistes qui sont identifiés à l'art numérique, d'autres arts contemporains. Il y en a quelques-uns qui se promènent entre les deux, mais j'ai essayé de faire réunir ça au même endroit, sous une même thématique.
Je pense
que ça fonctionne.
Oui, on est vraiment, il y a beaucoup à découvrir dans chaque œuvre, des plus petites aux plus grandes.
Oui, oui, oui.
Il faut prendre le temps, par contre, là. Mais c'est absolument, ça nous interpelle.
Et
certaines œuvres sont tellement précises qu'on on pourrait les observer longuement.
Oui, parce que dans Donc, bon, j'ai quand même, si vous lisez le statement au début du programme, je laisse quand même la place à une certaine imagination.
Oui.
Dans le sens que j'aime bien l'idée que la personne qui visite l'expo se fasse, disons, sa propre histoire, entre guillemets, et puis essaie de trouver pourquoi telle pièce, pourquoi la pièce de Orlan, elle est là, pourquoi telle pièce, elle est là. Et puis, pour moi, je vois ça un peu comme un film de David Lynch, certains films de David Lynch.
Oui, c'est vrai.
À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Puis là, il faut le revoir deux fois, trois fois. Ah, OK, tu fais tel lien, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'approche que j'ai eue par rapport à cette expo.
Ouais. Oui. Et j'imagine que ça a été... comment ça s'est passé, le processus de commissaire, là, pour... réaliser ce mandat-là?
J'ai travaillé avec trois autres commissaires, donc...
un commissariat tripartite?
en collaboration, donc il y avait pour la délégation suisse, j'ai travaillé avec la directrice artistique du Festival Mapping à Genève. On a travaillé en collaboration et puis pour la France avec Gilles Alvarez qui est directeur artistique, commissaire aussi du... Maintenant, c'est une biennale, c'est la biennale Nemo Arcadie Paris-Île-de-France. Et pour les artistes coréens, j'ai travaillé avec une curatrice qui s'appelle Dwen Choi qui est de Séoul mais qui vit à New York maintenant, avec qui on avait déjà travaillé à l'époque. Elle nous avait déjà invité en 2010 à Séoul.
Donc, c'est vraiment, je pense, une caractéristique du meilleur numérique. Il faut travailler en réseau.
Ah oui, oui. Ah oui, oui.
À l'échelle mondiale.
Oui, c'est pas.
Tout est connecté, alors.
C'est pas une dictature, non, mais il faut travailler en collaboration. Hein, je veux dire, même si on a. Je veux dire.
On peut pas travailler en solo en art numérique, c'est impossible.
Ben, je dirais même en art contemporain, de toute façon.
Oui.
Il n'y a rien de pur, on prend des idées un peu partout. Et puis, mais dans ce cas-ci, c'est moi qui ai créé les liens entre toutes les œuvres et la thématique.
Donc, non seulement une expo d'ampleur, mais aussi un travail d'ampleur. On poursuit sur peut-être, Alain Thibault, quelques œuvres pour donner l'envie de se rendre à l'arsenal.
Oui, oui.
Et observer de près ces créatures mécaniques et technologiques.
Oui. Bien, il y a un peu de tout. Je veux dire, il y a à la fois des œuvres robotiques, il y a des œuvres vidéo, il y a des tableaux.
Des œuvres d'art contemporain aussi.
Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des œuvres cinétiques, il y a des œuvres algorithmiques. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des œuvres sonores. La fameuse tour de Zimoun, par exemple.
Oh, écoutez, j'avais déjà vu cette œuvre-là à Oboro.
Ah, ça, c'est ça. On l'avait présentée en 2012 à Oboro. Oui. C'était la première biennale, mais c'est une version.
Très concentrée.
Dans la galerie. Mais ici,
une tour de Babel.
À peu près, oui. Mais je considérais que j'ai choisi cette pièce parce que je considérais que c'était le lieu pour la mettre en valeur et ça mettait le lieu en valeur aussi. Pour moi, c'est important de prendre cette pièce, de choisir cette pièce de Zimoun, qui est un artiste suisse. Là.
Écoutez, c'est magnifique. Et quel autre endroit où on peut exposer
Non, il n'y en a pas d'autre.
En hauteur, autant en hauteur qu'à l'Arsenal, c'est magnifique. Oui, c'est une des expositions à voir.
Oui, j'aime beaucoup.
Une des œuvres à voir.
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup aussi la pièce de ce trio allemand qui s'appelle Robot Lab, qui présente la pièce BIOS, si on veut. En fait, c'est un robot industriel, comme on en retrouve dans les différentes manufactures, qui transcrit la Bible.
Absolument.
C'est la Bible luthérienne en allemand. C'est tout en calligraphie et tout ça, là, c'est vraiment pendant un mois, donc non-stop, jour et nuit.
Alors,
ça, c'est un commentaire des machines sur nos croyances.
Il ne faut pas trop s'en faire avec cette perfection dans la tâche.
Non, non, elle est vraiment...
Parce que ça peut nous questionner sur ce qu'on est, comme
c'est
notre nature humaine.
Oui, 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 tout à fait.
Alors, effectivement, j'ai trouvé qu'on peut aussi humaniser le robot, parce qu'à un moment donné, je le trouvais délaissé, alors j'étais là... C'est une accompagnée au robot qui s'appliquait.
Voilà, là, il travaille fort.
C'est bon. Alors, oui, et moi, j'avais justement sélectionné cette œuvre-là, Robot Lab, absolument, puis un autre robot à côté qui donne à manger. Écoutez, c'est quelque chose. Elle est très curieuse.
Ça, c'était pour le premier week-end. Oui, ça, je l'avais présenté au Musée d'art contemporain en 2014. Oui. Mais je l'ai ramené parce que je trouvais que c'était tellement, comment on dit, un fit parfait avec la thématique. Donc, cette machine robotique qui nous nourrit, c'est de deux artistes de Montréal, Simon Laroche et David Santo. David est l'artiste qui a conçu, qui concevait l'aliment basé sur des trucs fermentés. Et puis, Simon est l'artiste robotique. Donc...
Oui, alors,
il y a des gens qui faisaient des blagues autour de ça. Ils disaient, ben, ce sera le type de machine qui va nous nourrir quand on va être très vieux à l'hospice. Sait-on jamais?
mais écoutez, cette machine-là, elle était présente surtout pour l'événement, l'ouverture.
C'est ça,
mais
oui.
Mais on ne la verra pas pendant cette exposition jusqu'au 3 juillet. Hein, mm-hmm. Disons, c'est jusqu'au 3 juillet. Mais parlons de d'autres œuvres qu'on va pouvoir mm-hmm. voir. Comme par exemple, j'ai été vraiment fascinée par... voyez-vous, c'est plus de l'ordre de l'art contemporain. Kim Yoon.
Oui.
Oui, écoutez, c'est...
Ça, c'est magnifique.
C'est une œuvre qui, à la fois, suscite une attraction puis une répulsion.
Tout à fait. Mais, oui,
peut-être
moi...
Peut-être à décrire.
Moi aussi. Ben, c'est difficile à décrire, hein, parce que cet artiste-là...
Ce sont deux tableaux
c'est
vivants.
C'est de la 3D.
Oui.
Il travaille avec le corps humain, mais, je veux dire, au premier coup d'œil... On a l'impression que ce sont des corps humains étendus ou verticaux et tout ça. Puis quand on regarde de plus près, on voit les distorsions que l'artiste a effectuées. Donc, c'est à voir.
Et ça, la thématique est le tatouage, hein?
Notamment. Dans son cas, oui. Mais pour moi, je l'ai vraiment lié à la thématique. C'est une espèce de portrait post-humain créé par des machines où oui. C'est comme si les machines se seraient essayées de se souvenir de ce qu'était le corps humain, mais avec quelques erreurs, si on veut.
Oui. J'étais absolument fascinée par l'œuvre qui allie le passé, le présent et le futur, celle de Julien Maire, Men at Work.
Mm-hmm.
Vraiment, quelle bonne idée.
Oui, Julien est un...
C'est une salle de projection de films.
C'est ça.
Mais particulière.
Julien travaille beaucoup depuis quelques années avec des dispositifs, des dispositifs entre guillemets, de projecteurs, avec des projecteurs 16 mm, 8 mm, diapo, etc. Dans ce cas-ci, il a conçu une pièce où il a remplacé le film par des impressions 3D. Impression 3D, l'œuvre s'appelle Men at Work, donc on travaille. Donc, on voit un homme pelleté, justement, travailler, creuser, pelleté. Encore une fois, pour moi, c'était tout à fait en ligne, en phase avec la thématique. Donc,
on est captivé non seulement par le film projeté, mais toute la mécanique. Hein?
Ah oui.
Petit bonhomme en 3D.
Non, il y a un mélange de nouveau et d'ancien qui est vraiment intéressant aussi là, dans tout ça.
Alors, c'est vrai. Mais écoute, on pourrait.
Il y a la pièce des
majeurs
des Coréens là, qui était à la Biennale de Venise, là, qui est une. Je veux dire,
oui, parlons-en, ça vaut. Parce que je suis restée là au moins une bonne demi-heure.
Ah oui, c'est absolument magnifique le travail. Donc, ils ont travaillé avec une actrice très, très connue en Corée. Donc, pour les Coréens, c'est sûr, ça a une résonance.
Oui.
Et puis, c'est une espèce de film entre... Donc, l'écran de gauche, le grand écran, c'est un peu, entre guillemets, le jour de la marmotte pour le personnage qui revit jour après jour, qui est dans un... En fait, ils ont recréé le pavillon.
Comme un roi, on dirait qu'on...
Il se réveille, il a sa routine, et puis c'est l'exercice,
il y a la routine.
Tout ça. Et puis, tandis que l'écran de droite, c'est vraiment des moments où il se passe des choses inattendues.
Oui.
Ils ont recréé en 3D, justement, l'espace du pavillon coréen à Venise. Et puis, ils ont comme... Leur idée, c'est vraiment de placer quelqu'un, un personnage, soit... Ben, il y avait le troisième écran aussi où le même personnage est habillé avec un costume vénitien. Donc, c'est un peu une vision, soit une vision du passé de ce personnage-là ou le contraire. Ça dépend comment on veut l'interpréter. Mais, je veux dire, visuellement, là, c'est absolument incroyable.
C'est époustouflant, je
dirais. Oui, il faut le voir. Je veux dire, c'est une vision du futur qui est magnifique. Là.
Oui, c'est ça. Et c'est très, c'est de l'ordre de l'art contemporain, toutes ces manipulations pour passer d'une époque à l'autre, hein, aller du présent au futur, ou du présent du personnage au futur. Ah, oui. C'est magnifique. Et
c'était vraiment.
Elle est fascinée d'ailleurs par les œuvres qu'elle crée.
Ah oui, oui, oui.
Avec les lasers.
Oui. Mais ce pavillon-là fut l'un, ou sinon le plus populaire à Venise, on m'a dit l'été dernier. Donc,
avec raison.
On l'a ici, il faut aller voir ça. Hein.
Est-ce qu'il y a quelques œuvres inédites dans la Biennale internationale d'art numérique?
Des créations,
oui,
vous voulez dire?
Oui.
Oui, en fait, on a trois créations.
Notamment
Paolo Almorio, qui est un Colombien qui vit à Chicoutimi.
Oui.
Que j'avais rencontré un peu par hasard là-bas, qui terminait sa maîtrise. Et puis, on lui a demandé de créer une nouvelle œuvre à partir d'une œuvre qu'il avait déjà fait. Donc, c'est un dispositif où tu as une série de portraits qui se détruisent.
Bien sûr. Qui a été exposé aussi à Oboro.
C'est ça. Donc, ça, c'était la version colombienne politique de politiciens je crois que l'histoire que ces gens-là avaient comploté, puis ils ont fait en sorte que la maison de ses parents avait été brûlée. Je connais pas tous les détails. Là, je lui ai demandé, j'ai dit, j'aime beaucoup le dispositif. Si tu voulais, j'aimerais bien qu'on reproduise tout ça, mais avec des personnages qui ont été marquants au niveau du développement de la création des technologies numériques. Donc, ça commence avec Charles Babbage, Ada Lovelace, John von Neumann, et puis, donc, on a trois personnages féminins, cinq masculins. Ça va jusqu'à Ray Kurzweil, Elon Musk. Donc, ça, tout ça, c'est un processus qui va se faire sur un mois. Donc, il y a Matthew Biederman, qui est un artiste de Montréalais aussi, qui a créé une nouvelle pièce, vidéo algorithmique, là, silencieuse, qui est magnifique. Il y a un jeune artiste aussi, auquel on a commandé, ça s'appelle La tombe de Nefertiti, qui vient tout juste de sortir de Concordia et qui fait un travail 3D absolument magnifique.
Oui, parce qu'il y a aussi une représentation d'artistes locaux. Le temps file, il nous reste à peine quelques instants là, pour un petit peu faire un petit retour sur l'Electra. J'ai déjà assisté à votre séance Inferno et un petit peu comment ça enligne la Biennale.
C'est ça.
Oui.
Oui, ben Inferno, ce fut un moment absolument incroyable où on avait 25 exosquelettes que les spectateurs pouvaient porter. C'est une performance d'une heure. Donc, je pense que chaque personne a vécu quelque chose d'assez particulier.
Moi-même.
Voilà. Même les spectateurs. J'ai jamais vu une pièce avec autant de. S'est retrouvé autant sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment assez spécial.
Mais c'était une première en Amérique du Nord.
Oui, première.
En fait, les robots s'emparaient de la piste de danse. Hein?
Tout à fait. Ben, je veux dire, l'humain devenait robots.
Puis là,
vous faites les liens que vous voulez avec tout ça.
Oui. Comment s'enligne un petit peu la Biennale?
Oui, ben c'est ça. Ben, c'est ça.
Dans le futur.
Par rapport à Electra, je suis de plus en plus intéressé par les expositions et les installations. Je trouve qu'au niveau innovation, c'est ce qui se fait de plus intéressant. Je suis un peu, disons qu'après 17 ans de performance, notamment de performance audiovisuelle, il y a un manque de nouvelles idées. Et puis je trouve que
une nouvelle étape qui est la salle des expositions.
Oui, c'est ça aussi, parce qu'il y a personne qui fait ça ici, donc je pense que on va se diriger de plus en plus vers ça, tout en gardant un petit côté événementiel, mais lié à une thématique, parce que le fait de faire une expo, ça permet aussi de donner beaucoup plus de contenu.
Merci énormément, Alain Thibault. Donc, une exposition ne part à l'Arsenal, la Biennale internationale d'art numérique, Automata, jusqu'au 3 juillet à l'Arsenal. Vraiment, c'est une recommandation. Il faut y aller. Merci.